Welcome to the Voice of America in Creole.
Saluer tout le monde cap côté. Moi c'est Ronald César cap invité nous suivre un programme sous la voix de l'Amérique Washington. Nous souhaitons tout le monde bonne écoute.
Monsieur Fernando Vidal, ambassadeur du Brésil en Haïti, la voix de l'Amérique vous salue et vous remercie d'avoir bien voulu lui octroyer cette interview. Alors, comme vous le savez déjà, monsieur l'ambassadeur, le Conseil de sécurité a récemment décidé de remplacer la MINUSTAH, la mission stabilisation des Nations Unies, par une mission réduite, la MINUJUSTE, pour appuyer le système judiciaire ici à la police nationale. Votre réaction, monsieur Vidal, en tant que représentant du pays qui assure le leadership de la MINUSTAH?
On savait déjà, le Brésil se préparait déjà pour la phase finale de la MINUSTAH et la phase finale de la MINUSTAH commençait déjà à se passer au fur et à mesure que le nombre de soldats militaires ici en Haïti était déjà réduit il y a quelque temps. Ça veut dire qu'on commençait déjà à réduire. Quelques pays avaient déjà annoncé qu'ils s'en allaient, comme le Chili par exemple. Ça veut dire que ce n'était pas une surprise hein, quand on a vu la résolution 2350. Ce n'était pas surprise du tout pour le Brésil ni pour d'autres pays.
Monsieur Vidal, certains soldats de la MINUSTAH font l'objet d'accusations d'abus sexuels et de viols et d'autres violations de droits humains. Est-ce qu'il y aurait des soldats brésiliens impliqués dans ce genre de violations?
Le travail des soldats brésiliens a été impeccable. Je ne cesse jamais de répéter ça et je suis très fier de pouvoir répéter ça parce que c'est vrai que les Brésiliens n'ont jamais participé de ces dénonciations et je dis que celui qui fait la dénonciation doit la prouver. Et on n'a jamais reçu une preuve concrète qu'un soldat brésilien pourrait être l'auteur d'un abus sexuel ou des crimes pareils. Et on est très fiers, plus que satisfaits. On est très fiers. Vous savez que le soldat brésilien, quand ils arrivent, avant d'arriver ici, ils reçoivent un entraînement très strict au Brésil. Ils sont très professionnels et ils restent seulement 6 mois parce qu'ils restent complètement enclosurés dans les bases militaires. Ils ne peuvent pas sortir des bases militaires le soir. Ils ne peuvent pas sortir des bases militaires le fin de semaine. Ils sortent des bases militaires seulement pour des opérations militaires. Et alors, c'est très difficile de dire qu'un soldat brésilien puisse être parti d'un crime d'abus sexuel en Haïti, parce qu'on n'a jamais eu des cas comme ça. Et il faudrait, évidemment, si quelqu'un me dit qu'un soldat brésilien a en effet participé d'une chose comme pareille, il faudrait donner des éléments plus concrets d'investigation.
Ambassadeur Vidal, il ne fait plus de doute sur l'intention du gouvernement haïtien de créer une force armée pour remplacer le contingent militaire de la MINUSTAH après son départ. Quelle sera la contribution du Brésil dans la création de cette force?
Ici, tu courtoisies au président du Sénat pour parler de la coopération entre le Brésil et Haïti. Il m'a dit que ce serait très important si le Brésil pourrait continuer la coopération dans le domaine militaire. Je lui ai rappelé qu'on a signé avec Haïti un mémorandum d'entente en ce qui concerne le génie militaire pour pouvoir contribuer à la formation d'un génie militaire en Haïti. On n'a pas pu malheureusement implémenter ce mémorandum d'entente parce qu'on a eu des contraintes budgétaires au Brésil. Et il m'a demandé de voir si on pouvait, dans ce processus de relèvement du composant militaire de la MINUSTAH, si on pouvait laisser des équipements militaires ici en Haïti pour les forces armées, pour le génie militaire. Et moi, je lui ai dit que j'allais voir ça avec mon gouvernement. Et j'ai déjà transmis ça à mon gouvernement pour savoir si on peut laisser, s'il y a des équipements de génie militaire, et si on peut les laisser. Parce que moi, j'ai l'information que toutes les donations d'un bien public brésilien doivent être autorisées par le Congrès brésilien, par le Parlement brésilien. On devrait faire un inventaire de ce qu'il y a ici en Haïti, ce qu'on pourrait donner au gouvernement haïtien et voir s'il y aura le temps suffisant pour que le Parlement brésilien se prononce. Et on va, je crois que pendant les prochains mois, travailler sur ça.
L'appui technique du Brésil pour la professionnalisation de la police nationale va-t-elle continuer, ambassadeur Vidal?
On a déjà eu avec la PNH des projets de coopération. On a toujours envie de continuer à collaborer avec la PNH. ça dépend un peu de la PNH nous dire ce qu'on peut aider maintenant. On a toujours, vous savez, au Brésil, une question qui est un peu difficile pour nous tous, qui est la question budgétaire. Il n'y a pas une question politique, là, c'est une question budgétaire seulement. Et on a déjà, quand on vivait des moments plus heureux en ce qui concerne le budget, on a reçu des agents de la PNH au Brésil pour des formations des policiers. Et j'espère pouvoir annoncer au futur prochain que la situation budgétaire a amélioré pour pouvoir reprendre des projets de coopération qu'on a avec Haïti dans ce domaine-là.
Et ambassadeur Vidal, on va changer de sujet pour aborder un autre volet de cette coopération en ce qui concerne les hôpitaux communautaires. Y a-t-il un suivi à ce sujet, ambassadeur Vidal?
Ça, c'est un projet de coopération qu'on a avec Haïti dans le domaine de la santé. C'est un projet du Fonds de reconstruction d'Haïti qui a été créé en 2010 après le tremblement de terre. Le Brésil a été le premier pays à faire le don dans ce fonds du Fonds de reconstruction d'Haïti. Et j'ai le plaisir d'annoncer qu'on va pouvoir maintenant, en 2017, commencer un très, très important projet dans le domaine de la santé avec le ministère de la Santé publique et de la population d'Haïti. J'ai déjà parlé avec la nouvelle ministre de la Santé. Et on va recevoir le mois prochain de mai une délégation du ministère de la Santé du Brésil qui vient pour parler de ce projet. Et c'est un projet très important qui va, comme vous avez dit, qui va à la question des urgences et du maintien des hôpitaux qu'on a créés ici avec un autre projet qui va finir cette année. Trois hôpitaux qu'on a construits en 2014, des hôpitaux qui vont continuer cette coopération avec le nouveau projet de la santé. Ce sont des professionnels, nous on a construit les hôpitaux et les hôpitaux ils marchent très bien. Il y a des problèmes qui vont être résolus maintenant avec le nouveau projet qui va continuer le maintien de ces trois hôpitaux.
Est-ce qu'il y a un chiffre déjà pour ce projet?
Le projet, il a un chiffre de 20 millions de dollars.
Ambassadeur Fernando Vidal, La Voix de l'Amérique, vous remercie.
Je vous remercie beaucoup. Parfait.
Il est sorti lundi 24 pour arriver vendredi 28 avril à 11h et 11h30 GMT, soit 7h et 7h30 du matin en Haïti. 100 premiers jours, président Trump sous pouvoir. Sorti lundi 24 pour arriver vendredi 28 avril à 11h et 11h30 GMT, soit 7h et 7h30 du matin en Haïti. 100 premiers jours, président Trump sous pouvoir. Service créole La Voix de l'Amérique là, a annoncé des stations de télévision affiliées LIO. Il va présenter un programme spécial dans le moment président américain Donald Trump à Paris pour marquer 100 premiers jours de sous-pouvoir dans la date 29 avril 2017. Là. Programme spécial ça pour aller passer sur satellite depuis samedi 22 avril là, arrivé vendredi 28 avril sur 319.5 degrés, channel virtuel 322 et dans le SAIO. Samedi 22 avril, en 18h30 et 19h GMT, soit entre 2h30 et 3h de l'après-midi en Haïti. Dimanche 23 avril, en 12h et 12h30 GMT, soit entre 8h et 8h30 du matin en Haïti. Il sorti lundi 24 pour arriver vendredi 28 avril entre 11h et 11h30 GMT, soit 7h et 7h30 du matin en Haïti. 100 premiers jours, président Trump sous pouvoir, c'est une occasion pour La Voix de l'Amérique parler de programme administration Trump-là. Il fait auditeur téléspectateur Lio faire plus connaissance avec l'institution démocratique États-Unis.
Ambassadeur Ruben Cillier, vous êtes le représentant de la République dominicaine en Haïti. La Voix de l'Amérique vous salue. Et on va aborder l'état des relations haïtiano-dominicaines du point de vue politique et économique. D'abord, commençons par les questions migratoires, monsieur l'ambassadeur.
Bon, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, les relations sont très bonnes. Elles ont été très bonnes depuis quelques temps, surtout l'année dernière. Mais avec le président Jovenel Moïse, vous savez qu'il a choisi la République dominicaine pour faire son premier voyage à l'extérieur, avant d'être président d'Haïti, c'est-à-dire avant d'être nommé définitivement président d'Haïti. Et dans cette visite, il a rencontré son collègue Danilo Medina et ils sont développés, c'est ce qu'on peut dire, une métaphore, une grande chimie mutuellement. Ils se sont bien compris parce que le président Medina, c'est un homme d'action, c'est un homme de projets concrets. Et le président Jovenel Moïse est venu pour connaître l'expérience de certains projets qui ont été déjà développés en République dominicaine. Et du point de vue politique, et je pense que le rapport que sont mis, ça a été, ils sont entre tous les deux, j'ai eu le privilège de les accompagner. Je pense que ça a été un excellent rapport. Je pense qu'ils sont, comme je vous dis, une très bonne chimie. Et je pense que maintenant, les expectatives d'approfondir, c'est ce que j'appelle l'organisation, l'ordonnance, ordonner l'immigration retirée en République dominicaine, ça a beaucoup de futur.
Mais concrètement, dans les faits, comment peut-on quantifier, si je peux utiliser ce terme, comment peut-on vraiment jauger ces rapports?
Bon, si vous prenez par exemple tout ce qui est les échanges commerciaux, même si on doit discuter encore, ils sont en accord binational pour le commerce et qu'il y a beaucoup de différences entre les deux pays de ce point de vue, mais la relation commerciale continue très, très intensement. Pas seulement la relation, disons, au niveau formel, mais aussi au niveau informel, avec les marchés transfrontaliers. Donc on a des milliers de personnes, dominicains et haïtiens, qui vivent de l'échange commercial. Donc ça, c'est un point très, très important. Du point de vue migratoire, je pense que les deux pays ont arrivé à se rapprocher plus que jamais. Étant donné que, comme vous savez, s'il vient à un moment donné, le tribunal constitutionnel a prétendu créer un problème pour les Dominicains d'origine haïtienne, le président Medina a trouvé une sortie légale et légitime pour les Dominicains d'origine haïtienne. Ce qui menaçait pour être un problème grave entre les deux pays a été complètement résolu. Mais en plus, le président Medina a développé le plan national de régularisation de la migration des étrangers. Et ce plan, elle a pu se développer d'une façon, ils sont satisfactoires. Donc, ce sont les deux points qui sont plus difficiles de la relation et les deux points sont en train de se organiser. Parce que j'ai toujours répété ce qui nous manque. C'est une bonne organisation entre les deux pays pour gérer, disons, les sujets de l'agenda binational.
Et vous avez fait allusion à la question migratoire, mais déjà, le gouvernement haïtien et le président haïtien a récemment annoncé qu'il comptait délivrer des passeports et donner des documents d'identité à ceux-là qui se sont inscrits dans le programme d'identification. Et le délai, la date d'échéance, et c'est juillet. Donc, est-ce qu'il y a une distribution de documents déjà à date?
Ils n'ont pas encore commencé à distribuer les passeports qui ont été élaborés avec le gouvernement de M. Jovenel Moïse. Parce que ça fait à peine 2 semaines qu'ils sont finis les passeports, mais ça a été une excellente nouvelle, étant donné qu'ils ont parlé de 12 à 15 000 passeports. Donc cela veut dire que 12 à 15 000 Haïtiens qui sont inscrits dans le plan national de régularisation des étrangers auront finalement sa résidence et son permis de travail permanent en République dominicaine, avec une cinquantaine qui ont déjà ces permissions. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très positif pour le président Jovenel Moïse, parce que le président Jovenel Moïse a compris qu'il fallait retourner la dignité à ces travailleurs haïtiens qui sont à l'extérieur. Donc maintenant, il y a 15 000 personnes qui ont récupéré sa dignité avec une carte d'identité et un passeport haïtien. Et j'espère que à partir de quelques jours, parce qu'ils sont annoncés qu'il y a un plan pour la distribution de ces passeports et ces cartes d'identité dans tout le territoire national. Nous, on attend de connaître quel est le plan du gouvernement haïtien, mais dès maintenant, je peux vous dire que le gouvernement haïtien pouvoir compter avec tout le soutien du gouvernement dominicain pour arriver, ils sont positivement à distribuer toutes ces cartes.
Et parallèlement à ce programme de normalisation des Haïtiens vivant en République dominicaine, des Haïtiens qui n'ont pas encore de documents légaux, et il y a le refoulement à la frontière. Plus d'un se plaint de la façon dont se fait, dont se déroule ce refoulement d'Haïtiens à la frontière.
Et je peux vous assurer, je pense que les Haïtiens qui sont rendus dans son pays, et ça se fait de plus en plus d'une façon organisée, avec les témoignages des organismes internationaux comme l'OIM et aussi des organismes haïtiens. Des fois, il y a des problèmes. Il faut que je vous le dise, je dois l'admettre. Mais vous savez, pour une frontière comme celle, comme notre frontière avec Haïti, ce n'est pas facile hein, de changer d'un coup avec un arrêté présidentiel, changer tout de suite, disons, ce qui a été une tradition, vous voyez. Et je peux vous assurer que nous avons beaucoup avancé dans ce sens.
Et parlons maintenant de commerce bilatéral. Sur le gouvernement de l'ancien président Martelly, il y a eu interdiction d'entrée par voie terrestre de 23 produits dominicains. Et cette mesure est toujours maintenue. Est-ce que c'est une mesure qui gêne un peu le rapport commercial entre les deux pays?
C'est une mesure qui gêne beaucoup, disons, l'activité commerciale d'exportation de la République dominicaine. Vous savez, la mesure a été prise. Et malheureusement, les exportations de la République dominicaine vers Haïti, elles sont diminuées. Et ça nous fait, ça nous touche non, fortement. Mais de toute façon, c'était développé une certaine informalité. Et il y a une partie des commerces qui continue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des commerçants, surtout de la partie nord, qui n'acceptaient pas la mesure. Étant donné que pour ces commerçants qui sont sur la frontière, ils n'ont pas accès facilement au port d'Haïti. Donc, de ce point de vue, ces commerçants haïtiens qui font de l'importation, ils ont insisté à l'élimination de la mesure et ils sont forcés, si vous voulez, l'entrée de certains produits dominicains en Haïti. Parce que c'est son moyen de vie. C'est différent pour un grand importateur qui se trouve à Port-au-Prince. Mais ces commerçants qui sont de le nord et à côté de la frontière, c'est de moyens et petits importateurs. Vous voyez, c'est un problème. La mesure ne résout pas le problème. La mesure a été adoptée pour éliminer contre la contrebande. Et vous savez, la contrebande, on ne peut pas arrêter la contrebande de façon unilatérale. Arrêter la contrebande, ça implique, ça signifie un accord sérieux au niveau technique, au niveau sécurité, au niveau économique, etc., pour garantir le blocage à la contrebande. Vous voyez? Et c'est pourquoi je pense que la mesure n'a pas réussi, disons, les objectifs qu'elle s'était proposée.
Monsieur Sillier, pensez-vous que le gouvernement dominicain serait prêt à collaborer avec les autorités haïtiennes dans le cadre d'une lutte conjointe contre la contrebande à la frontière haïtiano-dominicaine?
Je pense que oui, et le gouvernement dominicain va faire beaucoup d'efforts avec le nouveau gouvernement. Le gouvernement a montré bon, l'intérêt d'organiser le commerce. Et ils sont conscients maintenant qu'en réalité, la mesure de 23 produits ne constitue pas le mécanisme idéal pour organiser le commerce entre Haïti et la République dominicaine.
Qu'est-ce qu'on reproche à ces 23 produits, monsieur Sili?
Bon, là, je pense qu'il n'y a pas de reproche. Parce qu'à un moment donné, il y avait des reproches pour la production agricole. Il y avait la fièvre, etc. C'était faux. Mais il y avait la croyance. C'est faux. C'est le seul produit qui a été contesté. Pareil avec la farine. Parce que la farine avait un ingrédient qui faisait du mal. Tous les deux se sont résolus. Donc, du point de vue santé, salubrité, il n'y a pas de problème. La mesure est expliquée au niveau officiel comme un mécanisme pour bloquer la contrebande. C'est tout ce qui a été expliqué. Et malheureusement, les exportations de la République dominicaine vers Haïti, elles sont diminuées. Et ça nous fait, ça nous touche non, fortement. Mais de toute façon, c'était développé une certaine informalité. Et il y a une partie des commerces qui continue. Parce qu'il y a eu des commerçants, surtout de la partie nord, qui n'acceptent pas la mesure, étant donné que pour ces commerçants qui sont sur la frontière, ils n'ont pas accès facilement au port d'Haïti. ces commerçants haïtiens qui font de l'importation, ils ont insisté à l'élimination de la mesure et ils sont forcés, si vous voulez, l'entrée de certains produits dominicains en Haïti. Parce que c'est son moyen de vie. La mesure ne résout pas le problème. La mesure a été adoptée pour éliminer, contre la contrebande. Et vous savez, la contrebande, on ne peut pas arrêter la contrebande de façon unilatérale. Arrêter la contrebande, ça implique, ça signifie un accord sérieux au niveau technique, au niveau sécurité, au niveau économique, etc., pour garantir le blocage à la contrebande. Et c'est pourquoi je pense que la mesure n'a pas réussi, disons, les objectifs qu'elle s'était proposée. Quand il y a une affaire qui est l'intérêt mutuel, je pense qu'on doit quand même se mettre d'accord. Le gouvernement Lamotte, à un moment donné, il disait que le gouvernement haïtien perd autour de 400 millions de dollars. Les études les plus récentes qui ont été faites par un groupe de Caribbean Sports et par un groupe d'académiciens intégrés par 5 universités haïtiennes et dominicaines, tous les deux, ce sont des études qui montrent que la République dominicaine aussi, elle perd plus de 300 millions de dollars.
Ambassadeur Ruben Sillier, La Voix de l'Amérique, vous remercie.
Merci à vous et bon après-midi.
La Voix de l'Amérique diffuse opinions sous diverses qualités de sujets. Texte nous parle là, c'est un éditorial qui présentait politique gouvernement américain.
Quelquefois, il y a une opération qui connaît un genre simple qui a fait aucune différence la femme qui souffrit avec un problème de santé qui semblait insurmontable, qui en pile fois gâté chance pour ta vivre une vie côté produit normalement. Comme exemple, nous avons mesdames qui vivent avec obstétrique fistula. C'est un problème environ 2 millions de femmes à souffrir, puis fondre à vivre dans l'Afrique en Bas-Sahara et dans le Sud-Asie. C'est un blessé interne qui fait gros dégâts à la femme, et ça qui la cause, c'est accouchement difficile qui durait trop longtemps. Condition ça, que mesdames yon ka éviter, si yon gain bon genre soin médical pendant l'accouchement, c'est yon problème qui montrait côté système santé a pas aidé mesdames yon. Malgré c'est un problème yon ka traiter et ka éviter, condition ça continue gagner la caille mesdames qui pi pauvre yon tout partout dans le monde là. Et Félix sous mesdames yon, c'est un désastre. Femme qui souffrit avec obstétrique fistula, en pile voie société a, et même famille yon mette en étiquette sur yon, et même ralico sur yon. Vraiment vrai, en pile voie, mari yon néglige yon, ou bien pati quitte yon. Dans Bangladesh, yon a fait 71 000 femmes souffrir avec obstétrique fistula. Et chaque année, il y a environ 2 000 nouveaux cas. 13 centres médicaux dans le pays ont fait opération qui corrigeait le problème, non, mais résultat, c'est pas que ça. Chaque centre médical qui a fait opération comme ça doit seulement environ 1000 fois chaque année. Agence américaine pour développement international, qui gagne nom USAID, mettait ensemble avec département défense, États-Unis, pour aider à éliminer le problème ça dans Bangladesh. Dans le mois de novembre 2016, deux agences ont dirigé un programme qui a aidé à augmenter la quantité de personnel médical dans Bangladesh, qui a traité les femmes qui souffrent à condition ça. Il y a un groupe étudiant en médecine en Bangladesh qui prend une formation rapide et sans prendre souffle sur les gens qui ont réparé fistula et éviter le rivet. Et instructeur, c'était personnel médical qui est sorti dans le commandement soins santé régional Pacifique là, qui établit dans le commandement l'armée États-Unis pour Pacifique là. Un chirurgien qui est sorti dans le centre médical militaire Triple à quelques dirigeants la santé USAID. Et FOSA est dévancé mission commandement Pacifique États-Unis hein, avec mission santé régionale commandement Pacifique États-Unis pour faire moun éviter maladie et améliorer système yo avec santé moun dans toute Asie Pacifique là. Pour répéter parole général brigade Bertram Providence, qui est directeur général commandement santé régionale dans Pacifique là, l'y ajouter ensemble, nous qu'a aider pays Bangladesh joindre soins de base ou bien soins et spécialistes.
C'était un éditorial qui t'a présenté nos politiques gouvernement américain.
Nous sommes écoutés un programme sous la voix de l'Amérique, Washington. Ronald César a dit nous merci pour attention. Nous.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.